Et on va accueillir, comme chaque mercredi du mois, sauf exception, qui confirme, dernier mercredi. Oui, qu'est-ce que j'ai dit ?
Mercredi, c'est quand même pas toutes les semaines.
Oui, mais bien sûr, mais bon, on va voir pour la grille. Donc le dernier, je me reprends, mercredi du mois, donc Michel, bonjour, bienvenue. Puis vous êtes chez vous, Odo Radio,
bonjour,
avec son rendez-vous mensuel. Et déjà 44e chronique Astro.
Oui, bientôt 4 ans, en septembre.
Voilà, ben on fêtera ça. Alors, juste avant que vous commenciez cette chronique et nous parler de l'actu et vous nous annoncez une mauvaise météo sur Mars, rappelez en quelques mots, on le redira à la fin, Constellation Z Galaxy, ce que vous proposez dans les grandes lignes, hein, bien sûr.
Oui, donc Constellation Z Galaxy est une association basée en Dordogne, près de Mussidan, et qui a pour vocation la diffusion de la culture scientifique et plus particulièrement dans le domaine de l'astronomie. Et une de nos activités phares, si je peux dire, c'est un planétarium itinérant qui peut se rendre, alors souvent c'est dans le milieu scolaire pendant l'année, donc les écoles, les collèges, les lycées, mais ça peut être aussi des associations qui nous accueillent, voire des communes pour faire une petite animation culturelle dans le village. Donc c'est un dispositif gonflable avec un projecteur spécial à l'intérieur qui permet de voir le ciel étoilé un petit peu comme on serait dehors à la campagne et me permet d'expliquer le ciel, les constellations, un petit peu tout ça.
Voilà, et puis plus d'infos sur le site, hein. On le redira à la fin, mais on va le dire à nouveau en ouverture de cette chronique, Constellation Z Galaxy, tout ça est au pluriel, .org. Alors pour ouvrir votre chronique numéro 44, alors pour l'actu, mauvaise météo sur Mars, hein, Michel. Hein.
Voilà, hein, ici presque jusqu'à l'arrivée de l'été, jeudi dernier, la météo de ce printemps ne nous a pas beaucoup gâtés, on s'est beaucoup plaint du ciel en mai et début juin. Eh bien, il faut savoir que sur Mars, ça ne va pas mieux. Depuis le 1er juin, une énorme tempête de poussière s'est levée et couvre une partie de plus en plus importante de la planète rouge. Ces derniers jours, c'était dans les 30 millions de kilomètres carrés quand même, hein, soit presque un quart de la surface. Il n'y a là rien d'extraordinaire car c'est un phénomène saisonnier. Le vent se lève et emporte la fine poussière dans l'atmosphère au point que le ciel se brouille complètement pendant quelques semaines et on ne voit plus aucun détail depuis la Terre. L'effet se fait surtout sentir pour les petits robots qui se promènent actuellement à la surface. Ils n'ont pas à craindre le vent, car la pression atmosphérique étant très faible, hein, environ 1/100 de celle de la Terre, la force du vent est beaucoup plus faible. Un vent de 150 km/h sur Mars n'est guère plus qu'une légère brise sur la Terre. Le problème vient surtout de la poussière, notamment pour Opportunity, un rover de la NASA qui est là-bas depuis 2004, car il est alimenté par des panneaux solaires, et quand la poussière se pose dessus, il manque d'énergie. Cela avait été fatal en 2010 à son jumeau Spirit, ensablé dans une dune depuis 2009, et qui a cessé d'émettre vers la Terre sans doute en raison d'une alimentation électrique insuffisante. Par précaution, on a arrêté toutes les tâches scientifiques d'Opportunity pour réduire au minimum sa consommation électrique, en espérant qu'il survivra à la tempête actuelle. Le vent ayant tendance, par chance, à nettoyer naturellement les panneaux solaires poussiéreux à la fin d'une tempête, souvent. Pour Curiosity, le plus gros rover arpentant la surface martienne depuis 2012, ce problème n'existe pas car il est alimenté par une pile nucléaire. Il peut donc poursuivre ses activités et nous a envoyé des images du paysage complètement voilé par la poussière. Il y a même eu un selfie devant un horizon complètement bouché qui a été publié par l'APOD, c'est Astronomy Picture of the Day, c'est un site dont je parle souvent puisqu'il publie de belles photos d'astronomie, le samedi dernier, le 23 juin. Bien entendu, le voile de poussière gêne également les satellites actuellement en orbite autour de Mars pour observer sa surface, mais ils permettent avec leurs instruments de mieux connaître ces épisodes de tempête. Par exemple, Mars Odyssey, en orbite depuis 2001, qui mesure la quantité de poussière dans l'atmosphère, ou MAVEN, arrivé en orbite en 2014, qui étudie plus spécialement ce qui se passe à haute altitude lors de ces épisodes météorologiques extrêmes. Pour ceux qui pensent à des missions humaines vers Mars, il faut réfléchir aux conséquences que ces tempêtes pourraient avoir sur les futurs explorateurs, un peu comme c'était montré dans le fameux film « Seul sur Mars », sauf que les dégâts occasionnés aux installations dès le début de l'histoire sont bien trop importants par rapport à la vraie force du vent martien.
Et toujours cette question de la vie sur Mars. Hein.
Oui, alors si nous revenons à Curiosity, ces explorations ont donné lieu à une publication importante dans la revue Science du 8 juin, par une équipe américaine dont le professeur Chris Webster du JPL, hein, c'est le Jet Propulsion Laboratory, filiale de la NASA chargée des missions spatiales non habitées. Depuis de nombreuses années, on remarque la présence de méthane dans l'atmosphère martienne. Et ça a commencé en 2004 avec la sonde européenne Mars Express. Mais surtout, cette quantité de méthane varie fortement selon les mesures, faisant apparaître un cycle saisonnier. Plus de méthane en été qu'en hiver. Car je rappelle que Mars, dont l'axe de rotation est incliné un peu comme celui de la Terre, possède des saisons analogues à celles de notre planète, sauf qu'elles sont environ deux fois plus longues. Car Mars met dans les 2 ans pour réaliser une révolution complète autour du Soleil. Les mesures de Curiosity sont plus précises que ce qui avait été fait auparavant, et surtout elles s'étalent sur plus de 3 années martiennes, ce qui a permis de confirmer les pics d'émissions saisonnières de méthane, avec une concentration environ 3 fois plus importante à la fin de l'été que pendant la saison froide. Et quand on sait que sur Terre, environ 90% de l'émission de méthane dans l'atmosphère est d'origine biologique, cela relance la question de la vie sur la planète rouge. On peut facilement imaginer qu'une forme de vie, par exemple des bactéries dans des nappes phréatiques proches de la surface, voit leur activité augmenter avec la chaleur de l'été, provoquant cette émission de méthane saisonnière. Mais bien sûr, pour le moment, ça ne reste qu'une hypothèse que les futures martiennes devront s'efforcer de confirmer, et notamment le rover ExoMars de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qu'on doit envoyer en 2020 avec pour mission de forer sous la surface en espérant trouver de l'eau et essayer d'y détecter d'éventuelles formes de vie. Donc rendez-vous dans un peu plus de 2 ans pour en savoir plus.
Et le Japon qui se lance à l'assaut d'un cube spatial.
Voilà, je parle plus souvent ici des missions astronautiques de la NASA ou de l'ESA, mais il ne faut pas oublier que d'autres nations ont aussi des ambitions spatiales, et notamment le Japon. La sonde Hayabusa 2 de la JAXA, c'est l'agence spatiale japonaise, a commencé à envoyer des images de son objectif, l'astéroïde Ryugu, qui porte le numéro 162173 dans le catalogue de ses objets, et dont le nom provient de la mythologie japonaise. Ryugu-jo désigne le palais souterrain du dieu dragon de la mer. L'APOD a publié lundi, le 25 juin, donc, une mosaïque de photos montrant l'approche progressive de la sonde, et sur les dernières, on commence à distinguer des cratères et des rochers sur l'astéroïde. Ce qui frappe, c'est surtout sa forme générale de Ryugu, qui évoque un dé à 10 facettes, comme on en utilise dans certains jeux de rôle. Il fait environ 1 km en taille. Pour simplifier, on a l'habitude de dire que les centaines de milliers d'astéroïdes circulant dans le système solaire sont sur des orbites situées entre Mars et Jupiter, ce qui est vrai pour la grande majorité. Mais il existe d'autres catégories, dont celle des Apollons, à laquelle appartient Ryugu, groupe appelé ainsi par le nom du premier découvert en 1932, puis redécouvert de nouveau en 1973 parce qu'on l'avait perdu de vue. Cette famille comprend actuellement 8365 astéroïdes, j'ai vérifié hier, plutôt de petite taille, inférieure en général à 10 km, mais qui sont des géocroiseurs, c'est-à-dire qu'ils coupent régulièrement l'orbite de la Terre et pourraient potentiellement représenter un risque de collision, raison pour laquelle on s'intéresse particulièrement à cette famille. Hayabusa 2, ce qui se traduirait en français par faucon pèlerin, en japonais, a été lancé en décembre 2014 et doit se mettre en orbite à environ 20 km de Ryugu pour l'étudier de cet été jusqu'à février 2019, puis ramener un échantillon sur Terre en décembre 2020 pour qu'il puisse être analysé. Car ce n'est pas qu'une sonde avec ses caméras et instruments de mesure que le Japon a envoyé, mais une véritable petite armada, comprenant aussi 4 microsatellites qui pourront s'approcher plus près de la surface, 2 impacteurs, dont SCI qui doit percuter à surface en creusant un cratère de 2 mètres de diamètre remontant à la vue des matériaux plus profonds, 3 petits rovers qui pourront se déplacer par bond à la surface, un peu comme des sauterelles, et surtout l'atterrisseur surnommé Mascotte, développé par l'agence spatiale allemande DLR et le CNES français, engin d'environ 10 kg, en partie dérivé de Philae, que la sonde Rosetta avait envoyé sur la comète Chury qu'elle étudiait. Comme la plupart de ces dispositifs sont équipés de caméras, on peut s'attendre à voir publier dans les prochains mois pas mal d'images, probablement surprenantes, en raison de l'horizon très proche d'un si petit corps et des équilibres improbables de certains rochers permis par la faible gravité, comme on l'a déjà observé sur d'autres photos d'astéroïdes par le passé.
Allez, le sujet, le thème de votre chronique, comment le Soleil brille-t-il ?
Voilà, j'ai pensé que c'était le moment d'évoquer à nouveau le Soleil, que j'avais abordé une première fois en février 2015 parce qu'il y avait une éclipse partielle le 20 mars suivant. Car en effet, jeudi dernier, le 21 juin, ce n'était pas seulement la fête de la musique, mais aussi le solstice d'été. Donc le jour le plus long de l'année pour nous, dans l'hémisphère nord. Une sorte de fête du soleil d'une certaine façon. D'ailleurs, on aura pu revoir pour la énième fois les festivités un peu New Age, célébrant l'astre du jour à Stonehenge, en prétendant poursuivre une tradition millénaire. Avant de parler du soleil lui-même, quelques petits rappels concernant ces saisons. Depuis Copernic, on sait que la Terre effectue sa révolution autour du soleil en un an. Mais comme l'axe de rotation de la Terre n'est pas perpendiculaire à cette orbite, verticale si on peut dire, mais présente une petite inclinaison de l'ordre de 23,5 degrés, on voit varier la trajectoire apparente du Soleil dans le ciel jour après jour, plus ou moins longue et atteignant une hauteur plus ou moins importante à midi. Si on projette l'équateur de la Terre sur la voûte céleste, cette inclinaison se traduit par le fait que le Soleil peut se retrouver au-dessus ou en dessous de l'équateur. Les deux jours de l'année où le soleil est pile sur l'équateur sont les équinoxes, appelés ainsi car la durée du jour et de la nuit sont égales, 12 heures. Ils sont toujours autour du 21 mars et du 22 septembre et marquent conventionnellement le début des saisons intermédiaires, printemps et automne. Quand le soleil est au plus haut au-dessus de l'équateur, c'est le jour le plus long de l'année, le solstice d'été, avec la hauteur la plus importante à midi. En France, à environ 45 degrés de latitude nord, hein, ce qui est le cas de Bordeaux à peu près, il monte jusqu'à presque 70 degrés de haut, hein, mais jamais au fameux zénith à la verticale au-dessus de nos têtes, comme on le dit parfois abusivement. Et il reste environ 16 heures dans le ciel du lever au coucher. Avec une petite nuit d'environ 8 heures pour nous refroidir ensuite, on comprend bien que la Terre se réchauffe et qu'on entre dans la saison chaude, dont le maximum est un peu décalé dans le temps, du fait de l'inertie thermique des océans. Au solstice d'hiver, généralement le 21 décembre, la situation est exactement inversée, avec le soleil au point le plus bas sous l'équateur, donc la journée la plus courte, dans les 8 heures en France, et la hauteur minimale à midi, guère plus de 20 degrés, et donc l'entrée dans la saison froide. Bien entendu, tout ce que je viens de dire s'applique à nous, dans l'hémisphère nord, mais tout est inversé pour les habitants de l'hémisphère sud de la Terre. Comme ils ont la tête en bas, hein, relativement à nous, parce que dans l'espace il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, ils voient le soleil au-dessus de l'équateur quand il est en dessous pour nous, et vice-versa, d'où l'inversion des saisons entre les hémisphères sud et nord de notre planète. Et si ces explications ne suffisaient pas à convaincre ceux qui croient encore que les saisons proviennent d'une distance Terre-Soleil plus ou moins grande, je rappelle que c'est autour du 5 janvier, en plein hiver pour nous, que la Terre se trouve chaque année au plus près du Soleil. Et ce sera vendredi de la semaine prochaine, le 6 juillet à 17h, que nous en serons le plus éloignés pour 2018, et pourtant en plein été.
Mais tout cela ne nous dit pas ce qui fait briller le Soleil, Michel.
Ah, effectivement. Revenons maintenant à cet astre du jour qui a représenté une figure centrale dans la cosmologie des hommes depuis la plus haute antiquité et même dès la préhistoire quand on considère l'orientation de certains monuments mégalithiques comme le fameux Stonehenge anglais ou les tumulus de Newgrange en Irlande. Avec la chaleur et la lumière qu'il nous procure, on comprend aisément qu'il est la source de toute vie et qu'il a été donc l'objet de nombreux cultes, un des exemples les plus représentatifs étant celui de Ra ou Re, hein, on peut dire les deux, le soleil dans la civilisation égyptienne. Un dieu parcourant pendant la journée le ciel, bleu comme de l'eau, donc on pensait sur une barque sacrée invisible, mourant lentement à l'ouest chaque soir, puis affrontant diverses épreuves pendant les 12 heures de la nuit pendant son voyage dans le monde souterrain, avant de renaître chaque matin à l'est. Dans l'Antiquité grecque, on séparait le monde en deux parties. Le monde sublunaire, de la terre, de l'atmosphère et des hommes, donc imparfait, changeant, et le monde supralunaire, la lune et au-delà, donc les planètes, les étoiles, séjour des dieux où tout était parfait et immuable. Donc on ne s'interrogeait pas trop sur la nature du soleil puisque les astres étaient censés être composés d'autres matières que celles présentes sur Terre, en particulier ce qu'on nommait éther. Après la compréhension du système solaire dans le modèle géocentrique de Copernic et Kepler et les observations aux instruments depuis Galilée montrant des reliefs sur la Lune semblables à ceux de la Terre et des taches sur le soleil qui n'étaient donc pas si parfaits, on a remis en cause cette séparation et on a commencé à s'interroger sur la nature des astres par rapport à ce qu'on connaissait sur la Terre. Et on s'est demandé quelle source d'énergie faisait briller le Soleil aussi fort et régulièrement. En 1755, dans son Histoire naturelle générale et théorie du ciel, le philosophe allemand Emmanuel Kant considère qu'elle provient de feux gigantesques à sa surface et que du coup sa durée de vie devait être limitée en fonction du combustible disponible, un réservoir qu'il estimait se trouver à l'intérieur du Soleil. Mais au XIXe siècle, on a compris que l'idée d'une énergie provenant de réactions chimiques, hein, comme c'est le cas de la combustion, ne pouvait pas convenir, car la durée de vie de la Terre, donc aussi celle du Soleil, commençait à être estimée par les géologues et les paléontologues, dont le célèbre Charles Darwin, en millions d'années et même en dizaines de millions d'années. Or, un petit calcul permet de voir qu'une combustion ne pouvait pas durer aussi longtemps. Tout d'abord, on peut estimer la puissance du Soleil à partir de l'énergie qui parvient à la Terre, soit environ 1,5 kW par mètre carré. Ce chiffre que je donne, c'est dans l'espace, car seule une fraction, à peu près un tiers, arrive jusqu'au sol. Comme le Soleil brille de la même façon dans toutes les directions, il procure la même quantité d'énergie sur toute la surface de la sphère, l'entourant à la distance de la Terre, soit 150 millions de kilomètres de rayon. Et comme on connaissait déjà la loi de conservation de l'énergie, on savait que c'était exactement la même quantité que celle produite par la surface du Soleil. En faisant le calcul, ça donne dans les 4 fois 10 puissance 26 watts, c'est-à-dire un 4 suivi de 26 zéros, soit dit autrement, 40 000 milliards de milliards de kilowatts. Par comparaison, une voiture dont le moteur a une puissance d'environ 40 kilowatts roulant à 100 km/h consomme dans les 8 litres d'essence, soit à peu près 8 kg d'essence par heure. En faisant le rapport avec la puissance du soleil et en imaginant que toute sa masse soit de l'essence, on peut calculer qu'il ne pourrait briller comme aujourd'hui que pendant environ 3000 ans, ce qui est bien insuffisant.
Il fallait donc trouver autre chose.
On est donc passé à une autre hypothèse. Comme au XVIIIe siècle, Kant, mais aussi le français Laplace, avaient imaginé que le Soleil s'était formé par contraction d'un nuage de gaz, ce qui est plutôt juste d'ailleurs, on a pensé que l'énergie du Soleil pouvait provenir de la poursuite de cette contraction. Tout le monde sait bien qu'un gaz s'échauffe quand on le comprime, par exemple en gonflant une roue de vélo, on ressent l'échauffement de la pompe. Cette théorie a notamment été soutenue par Lord Kelvin, un physicien anglais, mais les calculs montrent que dans ce cas, le Soleil ne pourrait pas durer environ que 10 millions d'années. Ce qui était encore trop faible par rapport aux durées géologiques estimées pour l'âge de la Terre. Et c'est le XXe siècle qui va révolutionner notre compréhension avec l'étude des constituants de la matière, les atomes, et une nouvelle physique qui en est née, la physique quantique, dont j'avais parlé ici en mars. D'une part, elle explique la façon dont les atomes interagissent avec la lumière, et elle permet de comprendre que les raies sombres qu'on observe en décomposant la lumière sous forme d'un spectre sont la signature de certains éléments chimiques. Et cette technique, appelée la spectroscopie, a permis de savoir que le Soleil était très majoritairement constitué de l'élément le plus léger, l'hydrogène, à plus de 90%, le reste étant principalement constitué du deuxième élément, l'hélium, d'abord découvert dans le spectre du Soleil en 1868, d'où son nom, provenant de Hélios, Soleil en grec. Et c'est seulement en 1882 qu'on l'a redécouvert sur Terre dans la lave du Vésuve, pour la petite histoire. Tous les autres éléments, comme l'oxygène, le carbone ou le fer, par exemple, ne représentent qu'environ 1% du Soleil. La deuxième avancée permise par l'étude des atomes, et plus précisément des éléments radioactifs, a été une meilleure détermination de l'âge de la Terre ou des météorites, en mesurant la présence de certains de ces éléments. Ce sont généralement des atomes très gros et lourds, comme l'uranium, par exemple, donc instables, qui se décomposent en noyaux plus légers au fur et à mesure du temps. À un rythme constant, ce qui permet de les utiliser un peu comme des horloges géologiques. Et on s'est alors aperçu que la Terre, et donc tout le système solaire, était beaucoup plus âgé que l'on ne croyait auparavant, dans les 4 milliards et demi d'années. Ce qui reposait encore plus fortement la question de la source d'énergie qui avait pu permettre au Soleil de briller tout ce temps. Et c'est encore la physique quantique qui permet de répondre à cette question, car les réactions nucléaires, c'est-à-dire qui modifient les noyaux d'atomes, peuvent dégager de grandes quantités d'énergie quand une partie de la masse est perdue dans la réaction, suivant la formule célèbre d'Einstein, E égale mc2. C'est-à-dire que l'énergie dégagée correspond à la masse perdue multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, ce qui est une valeur énorme. Cette production d'énergie peut se faire lors des réactions de fission, c'est-à-dire quand de gros noyaux se scindent en noyaux plus petits. Ce sont les réactions qu'on utilise dans nos centrales nucléaires. Mais celle-là ne peut pas marcher pour le Soleil, car nous avons vu qu'il était surtout composé d'éléments légers. Hydrogène, hélium, et de très peu d'éléments lourds comme l'uranium en quantité bien insuffisante pour expliquer sa production d'énergie durant ces milliards d'années. La solution du mystère de la source d'énergie du Soleil semblait donc être dans l'autre type de réaction nucléaire, la fusion, par laquelle des noyaux légers se combinent pour en former de plus lourds, et qu'on essaie de mettre en œuvre dans des centrales nucléaires du futur, pour le moment de manière complètement expérimentale, comme le réacteur ITER en cours de construction en France près de Cadarache. En supposant que la température soit suffisante, la température étant en fait la mesure de l'agitation des particules, des noyaux légers comme ceux de l'hydrogène peuvent entrer en collision, leur vitesse étant suffisante pour vaincre leur répulsion électrique. En fait, dans le Soleil, la température est tellement forte que les électrons ne peuvent plus se combiner au noyau pour former des atomes, et il est donc abusif de parler de gaz au sujet du Soleil, car ce genre, si je peux dire, de soupe de particules isolées s'appelle en fait un plasma.
C'est donc la fusion nucléaire qui est la source d'énergie du Soleil ?
Effectivement. Il n'est pas question d'entrer ici dans le détail de la cascade de réactions successives qui permet d'obtenir le résultat voulu, mais en regardant les choses de manière globale, la fusion partant de 4 atomes d'hydrogène, soit 4 protons et 4 électrons, peut produire un atome d'hélium avec 2 protons, 2 neutrons qui sont obtenus par combinaison proto-électrons qui annule les charges électriques, et 2 électrons. Cette hypothèse a été proposée par l'astrophysicien anglais Arthur Eddington dès 1920 et s'est trouvée renforcée par Ernest Rutherford qui a réalisé en laboratoire la première réaction de fusion nucléaire en 1934. Mais ce n'était pas exactement la même réaction que ce qui se déroule dans le Soleil. Avec le bilan énergétique de ces réactions et la masse d'hydrogène présente aujourd'hui dans le Soleil, on peut calculer que cela peut alimenter sa production d'énergie au rythme actuel pendant environ 80 milliards d'années. Mais en pratique, c'est nettement moins, plutôt dans les 10 milliards d'années, car ces réactions se déroulent uniquement dans le cœur du Soleil et ne concernent donc qu'une partie de l'hydrogène disponible. On avait enfin trouvé un mécanisme permettant d'expliquer la source d'énergie énorme des étoiles. Encore fallait-il prouver que cette théorie était juste. Comment savoir ce qui se passe à l'intérieur du Soleil alors qu'on ne peut en observer que la surface et l'atmosphère ? En fait, il y a bien un moyen, car comme je l'ai dit, la fusion des 4 atomes d'hydrogène pour produire un atome d'hélium n'est pas aussi simple que cela et correspond à une cascade de réactions intermédiaires qui produisent de l'énergie, mais aussi d'autres particules, un peu comme des déchets si on peut dire, et en particulier celles qu'on appelle neutrinos, qui interagissent très peu avec les autres particules, ce qui leur permet de s'échapper du Soleil en traversant toute son épaisseur et d'arriver jusqu'à la Terre. On avait calculé la quantité de neutrinos qui devait nous parvenir pour expliquer la production d'énergie du Soleil par la fusion d'hydrogène, et on a essayé de la vérifier. Mais c'était très difficile justement parce qu'ils interfèrent très peu avec la matière, capables de nous traverser de part en part sans causer aucun dégât dans notre corps, et pourtant au rythme de plusieurs centaines de milliards chaque seconde. Pour donner une idée de cette faible interaction avec la matière, on estime que sur 10 milliards de neutrinos traversant la Terre, un seul va interagir avec un atome constituant notre planète. Pour espérer les détecter, il faut mobiliser des centaines de tonnes d'un matériau et observer longuement pour espérer détecter des réactions statistiquement significatives. On a réussi à le faire dans les années 90, mais les résultats posaient un problème car on en détectait pas assez, environ la moitié de ce qu'on attendait, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'une partie des neutrinos émis par le Soleil avait le temps de se transformer pendant leur trajet jusqu'à la Terre, car il existe en réalité plusieurs sortes de neutrinos et on ne mesurait qu'une seule. En effectuant la correction nécessaire, on trouvait finalement que l'émission de neutrinos par le Soleil correspondait bien à la quantité de fusion nucléaire nécessaire pour expliquer sa puissance, c'est-à-dire au rythme d'environ 600 millions de tonnes d'hydrogène converties en hélium chaque seconde. On pense donc avoir compris aujourd'hui le mécanisme de production d'énergie au cœur du Soleil et des autres étoiles, réaction qui se déroule à une température d'environ 15 millions de degrés, comme un énorme réacteur nucléaire basé sur la fusion. Mais de ce noyau très chaud actif, comment cette énergie est-elle transportée jusqu'à la surface, qui n'est qu'à environ 6000 degrés ?
Est-ce qu'on peut savoir ce qui se passe à l'intérieur du Soleil, Michel ?
Alors la structure interne du Soleil nous est connue en analysant les ondes qu'on peut observer à sa surface, un peu comme les vagues à la surface de l'océan. D'une manière analogue aux ondes sismiques, nous renseignent sur l'intérieur de la Terre, cette étude des vibrations du Soleil, discipline qu'on appelle héliosismologie, nous indique qu'il y a deux zones assez différentes en termes de densité. La plus proche du noyau, avec la densité la plus forte, est appelée zone radiative, car l'énergie y est transportée essentiellement par radiation, c'est-à-dire l'interaction entre la lumière et les particules. Les photons, c'est-à-dire les petits grains d'énergie lumineuse émis par le noyau, et évoluent dans une telle densité de particules qu'ils entrent sans arrêt en collision. Et c'est un processus d'absorption-réémission qui permet de faire monter progressivement l'énergie en direction de la surface, mais très lentement, car les photons sont réémis dans n'importe quelle direction et ils progressent donc en zigzag, si on peut donner cette image. Les calculs statistiques montrent qu'il leur faut des centaines de milliers d'années, on dit parfois jusqu'à 1 million d'années, en moyenne pour y parvenir, et s'échapper enfin librement dans un espace presque vide, et atteindre la Terre seulement 8 minutes plus tard. Mais dans leur parcours, ils atteignent d'abord la frontière de la zone plus extérieure du Soleil, environ à un tiers de son rayon, appelée la zone convective. Comme la densité y est plus faible qu'en dessous, c'est un mécanisme différent qui assure le transport de l'énergie, la convection, c'est-à-dire la remontée de matière plus chaude vers le haut sous l'effet de la poussée d'Archimède, un peu de manière analogue aux bulles de vapeur qui montent dans l'eau en train de bouillir pour éclater à la surface. Et de fait, le Soleil connaît aussi ce genre de phénomène car ses mouvements, en liaison avec le champ magnétique du Soleil, produisent à la surface les protubérances et autres éjections qui nous valent de recevoir en plus de la lumière un flux de particules solaires qu'on appelle vent solaire, provoquant différentes perturbations en arrivant près de la Terre, la plus connue étant les spectaculaires aurores polaires lorsqu'elles pénètrent dans la haute atmosphère. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui de manière un peu simplifiée du fonctionnement de notre étoile, sans oublier de rappeler à quel point notre Soleil est énorme à côté de la Terre, qu'il pourrait contenir environ 1 300 000 fois. Ça fait donc une sacrée réserve de carburant pour les prochains milliards d'années, et bien utile à l'humanité, car quand on y réfléchit bien, toutes les formes d'énergie que nous consommons proviennent en réalité du Soleil à l'origine. L'énergie solaire, bien sûr, mais aussi le vent, né des échanges thermiques dans l'atmosphère, ou les énergies fossiles, le bois, le pétrole, le charbon, qui sont nés des végétaux, ayant transformé toute leur vie durant l'énergie solaire en carbone par la photosynthèse. Quand on pense à tout ce que nous devons au soleil, y compris notre nourriture, hein, aussi bien végétale qu'animale, on peut comprendre qu'il a été considéré comme un dieu et souvent le plus important dans la plupart des cultures. Et pour conclure avec tous ces bienfaits que nous lui devons, je finirai par deux citations de Galilée qui prennent toute leur saveur dans des régions viticoles comme l'Aquitaine. D'une part, il avait dit « Le vin, c'est de l'eau remplie de soleil ». Et une autre, qui est ma préférée, « Le soleil, avec toutes ses planètes qui gravitent sous sa gouverne, prend encore le temps de mûrir une grappe de raisin comme s'il n'y avait rien de plus important ».
Troisième partie de votre chronique, le ciel du moins.
Alors comme dans les dernières chroniques, je vais résumer cette partie en renvoyant plutôt les auditeurs vers la rubrique « Ciel du mois » dans la section « Astronomie » de notre site web, donc je rappelle www.constellationsetgalaxiesaupluriel.org, pour voir les cartes du ciel correspondant, c'est quand même plus pratique, et avoir un peu plus de détails que ce que je résume ici. Avec l'approche du solstice d'été, la nuit est devenue très tardive, mais la durée du jour a commencé à réduire lentement. Ces jours-ci, le soleil se couche un peu avant 22h, si je veux être précis, c'est 21h50, et la nuit survient vers 23h15, et même il faut attendre minuit et demi pour un ciel bien noir. À la fin juillet, le coucher sera vers 21h30, la nuit vers 22h45, et le ciel bien noir vers 23h30. En début de nuit, le ciel de printemps est déjà bien basculé vers l'ouest, avec la constellation typique du Lion sur le point de se coucher. Au sud, on trouve des constellations que j'appellerais un peu, si je peux dire comme ça, charnières entre le printemps et l'été. C'est la Balance, le Bouvier et la Couronne boréale. Et le ciel de l'été occupe déjà toute la moitié est du ciel, avec la figure bien reconnaissable du triangle de l'été formé par les trois étoiles les plus brillantes. Altaïr, qui est la plus basse, Vega, la plus brillante et la plus haute dans le ciel, en début de nuit, et Deneb, la plus à l'est. Ce qui permet de situer et dessiner leurs constellations respectives, l'aigle, la lyre et le cygne. Plus au sud, le scorpion est déjà bien levé avec son étoile orangée Antarès, appelée ainsi car elle ressemble à la planète Mars. Mars, c'est Arès en grec. Et on a aussi le Sagittaire qui dépasse tout juste l'horizon surmonté de Saturne. Et dans un ciel bien noir de campagne, on peut voir la Voie lactée monter du Sagittaire jusqu'à Deneb. Fin juillet, en début de nuit, le triangle de l'été sera bien plus haut dans le ciel et plus proche du sud, et le ciel d'automne commencera même à apparaître à l'est. Côté planète, la très brillante Vénus s'allume à l'ouest dans les lueurs du crépuscule, peu après le coucher du soleil, et reste visible jusqu'à minuit environ. Pendant le mois de juillet, elle sera de moins en moins haute et se couchera de plus en plus tôt, vers 23h à la fin du mois. Ces jours-ci, on peut voir aussi la plus discrète Mercure se montrer au crépuscule entre Vénus et l'horizon. On pourra l'observer surtout pendant la première moitié de juillet, car après avoir culminé le 12, elle redescendra se cacher dans les lueurs du soleil couchant. En même temps que Vénus, si on se tourne vers le sud, on peut voir la brillante Jupiter, qui va lentement descendre se coucher vers 3h30 du matin. Il faut donc en profiter pour l'observer dans de bonnes conditions, car fin juillet, elle sera plus basse et se couchera dès 1h du matin. Je rappelle aux auditeurs qu'avec de simples jumelles, il est possible d'apercevoir jusqu'à 4 satellites formant comme un alignement de petites étoiles autour de la planète géante et dont la position varie en quelques dizaines de minutes. Mais ça, on le voit plutôt dans une lunette ou un télescope. En début de nuit, c'est un véritable festival des planètes, car plus à l'est, on peut aussi apercevoir Saturne, qui reste dans le ciel toute la nuit. Fin juillet, elle se recouchera vers 4h. Inutile de la regarder dans une paire de jumelles, car on ne peut pas voir ces anneaux qui nécessitent un grossissement plus fort, donc un petit télescope. Et pour finir le tour des 5 planètes visibles à l'œil nu, c'est enfin Mars, qui se lève en ce moment vers minuit, mais sera dans le ciel dès le début de nuit, fin juillet. Comme on se rapproche d'elle jusqu'à l'opposition du 27 juillet, on pourra remarquer qu'elle nous apparaît de plus en plus brillante. Actuellement, elle commence à dépasser l'éclat de Jupiter, mais avec une couleur bien différente, très nettement orangée, qu'on peut comparer à celle de l'étoile Antarès. Et pendant que je parle de Mars, je vais faire une petite parenthèse pour signaler que c'était hier, mardi 26 juin, qu'elle a commencé à reculer par rapport à son sens habituel de déplacement apparent dans le ciel par rapport aux étoiles, entamant ce qu'on appelle sa rétrogradation. Phénomène que j'essaie de mettre en image en la photographiant à peu près une fois par semaine. Inutile de préciser que hier matin, à peu près vers 2h, j'étais sur le terrain pour enregistrer sa position. Il y aura plusieurs conjonctions de la Lune avec ses planètes, en commençant par ce soir, où la pleine Lune sera proche de Saturne, puis samedi, une grosse Lune gibbeuse près de Mars. En juillet, le dimanche 15, on aura un fin croissant proche de Vénus, puis le vendredi 20, la Lune gibbeuse accompagnera Jupiter dans le ciel, le mardi 24, une très grosse Lune près de Saturne, et enfin, le vendredi 27, la pleine Lune accompagnera Mars pendant toute la nuit. Ce mois de juillet connaîtra deux événements un peu plus rares, avec une éclipse partielle de soleil le vendredi 13, mais qui sera totalement invisible pour nous, seulement observable sur une partie de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et comme toujours, dans les 15 jours plus tard, une éclipse totale de lune, qui sera parfaitement visible en France si la météo est bonne. Le spectacle ne sera pas le meilleur car la lune se lèvera vers 21h30 déjà éclipsée, pour sortir progressivement de l'ombre de la Terre, mais à une faible hauteur au-dessus de l'horizon. Ce ne sera pas l'éclipse lunaire du siècle, mais cela vaudra le coup d'œil si le ciel est dégagé. Et donc, par une drôle de coïncidence, le vendredi 27 cumulera cette éclipse de lune avec l'opposition de Mars, c'est-à-dire sa distance minimum à la Terre, et le rapprochement des deux astres dans le ciel. Il y aura sans doute de nombreux astronomes pour photographier ça, et je serai sûrement du nombre. D'ailleurs, nous aurons l'occasion de rappeler ce rendez-vous à nos auditeurs deux jours plus tôt, puisque notre prochaine chronique doit être en principe le mercredi 25. Je pense qu'elle sera consacrée aux Nuits des Étoiles, le rendez-vous annuel du public avec les astronomes et le ciel, programmé cette année pour le premier week-end d'août, c'est-à-dire du vendredi 3 au dimanche 5 août.
Voilà, on se reverra. Merci Michel déjà pour cette belle chronique. Voilà, puis le mercredi 25 juillet, on en parlait, la Nuit des Étoiles, voilà, certainement avec des invités. J'avais déjà de mon côté Capscience qui avait contacté, mais vous, quelques invités. On va s'organiser ça, quitte à faire...
L'an dernier, on avait invité nos collègues, si je peux dire, puisque je suis aussi membre d'un petit club d'astronomie à Saint-Médard.
Ce sont des collègues.
Des collègues bordelais ou girondins, on va dire, puisque je pense qu'il est plus intéressant pour nos auditeurs de savoir ce qui va se passer en Gironde.
Oui, sur la métropole.
Et c'est AG33, hein, donc Astronomie Gironde 33, qui sont très actifs et qui font beaucoup d'observations avec le public. Ça sera peut-être intéressant de les avoir s'ils peuvent se rendre disponibles. Et il y a aussi, il était question, alors il faut que je vérifie avec l'association Sirius, hein, qui, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, s'occupe de préserver le site de l'observatoire de Florac. Il était question qu'aussi il y ait une observation pour la Nuit des Étoiles à l'observatoire. Donc ce sera peut-être intéressant d'avoir quelqu'un pour en parler. Je vais prendre des contacts pendant le mois de juillet.
On va prendre des contacts, hein. Voilà, puis on va essayer d'organiser ça au mieux, mais je m'inquiète pas trop, c'est juste des agendas harmonisés. Alors encore un grand merci à vous Michel, hein, pour cette chronique. On se retrouve donc le 25 juillet. On va redire quelques mots sur le site constellationsetgalaxies.org. On retrouve toutes vos chroniques, beaucoup d'infos.
Voilà, alors pour faire simple, il y a un système d'onglets, ou de menus plus exactement. Le menu principal, c'est le planétarium, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque c'est notre activité phare, si je peux dire, hein, ce planétarium qui est assez unique dans la région. Hein, il y en a malheureusement trop peu en Aquitaine, qui peut se déplacer dans différentes salles, des écoles, des centres de loisirs, pour expliquer, montrer le ciel au public. Il y a une partie exposition, mais j'en parle pas parce que ça concerne uniquement la Dordogne. Une partie atelier, je l'ai dit ici, on a démarré ces dernières semaines un nouveau type d'atelier, hein, de la robotique avec des petits systèmes Lego là, qu'on a expérimenté au collège Vaillant à Bordeaux ces dernières semaines. Et la partie astronomie où on va trouver justement ce ciel du mois avec les cartes et aussi une rubrique chronique aux deux radios où on va retrouver toutes les chroniques depuis la première si ça peut intéresser des auditeurs de les réentendre.
Voilà, on rappelle le site constellationsetgalaxies.org. Michel, un dernier mot. On se voit le jeudi 25 juillet.
Voilà, en espérant qu'il fasse
mercredi,
beau.
Hein, je sais plus si
qu'il fasse beau pour le 27, quand il y aura cette fameuse éclipse totale de lune. Et aussi, bien sûr, pour les Nuits des Étoiles, puisque c'est l'occasion tous les ans de montrer au public un petit peu tout ce qu'il y a à regarder dans le ciel. Et cette année, on sera gâté côté planète, puisqu'on aura encore Jupiter dans le ciel, Saturne, Mars. Ce qui permet d'attendre un petit peu la vraie nuit noire, hein, parce que malheureusement elle arrive tard en été, pour s'attaquer à des choses un petit peu plus difficiles à voir, comme des petits amas d'étoiles, des nébuleuses, des galaxies. Donc on pourra commencer relativement tôt après le coucher du soleil.
Très bien, bon, on se revoit dans un mois. Encore un grand merci à vous Michel de venir chaque mois depuis la Dordogne pour présenter votre chronique.